Alors bonsoir à tous, je vous ai déjà dit bonsoir, en traduisant, quelqu'un d'autre, je vous dis bonsoir pour moi-même maintenant. Le sujet donc de tout ce week-end, c'est un peu ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est tout un univers qui se promène dans notre corps. Vous, qui êtes-vous? Qui suis-je? Mais des gens infiniment complexes. Dans ce corps qui a l'air ordinaire, on est tous tellement, tellement différents les uns des autres. Et pourtant, nous sommes tous aussi les mêmes. Je vais commencer ce soir en lisant trois textes de la Bible. Le premier, c'est en Romains chapitre 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Où l'apôtre Paul écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Ça veut dire littéralement « Ne vous laissez pas couler dans le moule de la mentalité ambiante. » Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, le mot c'est métamorphosés, par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On parle d'une transformation intérieure. Un autre passage, c'est en 2 Corinthiens, chapitre 10, un peu plus loin, versets 4 et 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 4 et 5. Là, l'apôtre Paul parle d'une bataille que nous livrons. Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il dit ici que dans notre mental, notre manière de penser, on peut avoir des pensées qui sont tout à fait fausses et qui sont tellement ancrées que c'est comme des forteresses qu'il faut détruire. Philippiens chapitre 2 maintenant, c'est un peu plus loin dans le même Nouveau Testament, Philippiens chapitre 4 et verset 4 à verset 8. C'est le soin de l'intérieur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et là, nous apprenons qu'il y a des attitudes à cultiver dans nos pensées. Alors, vous savez que les avancées de la médecine et la science, l'homme va de théorie en théorie pour expliquer ce qu'il est. On pensait par exemple dans l'Antiquité que l'état physique de l'homme était dû à l'humeur des dieux. On faisait des sacrifices, on avait de la superstition, on ouvrait des animaux, on examinait le foie pour deviner l'avenir, on faisait beaucoup de choses comme cela parce qu'on pensait qu'il fallait plaire aux dieux que l'on ne connaissait pas mais qu'on imaginait par là pour que ça aille bien pour nous. Ensuite, avec la science, on est allé jusqu'à penser que tout était affaire du corps physique. Si vous vous fâchez, vous avez un problème génétique. Si vous êtes en dépression, vous avez un problème dans vos chromosomes. Si vous avez une maladie quelconque, et on pensait que tout ce qui se passe dans l'âme était un problème de corps. Et donc, pour guérir d'une maladie, ben, il fallait simplement extraire le mal par la chirurgie et le traiter par les médicaments. De nos jours, et heureusement, on arrive à la conclusion que l'homme est un tout. On a ces fameuses maladies psychosomatiques. Le mot soma, c'est le corps. Psycho, c'est l'âme. Il y a donc des gens qui sont malades du corps parce qu'ils ont une certaine manière de penser. Ils sont apathiques. Ils sont affaiblis parce qu'ils se font du souci, ou ils sont craintifs, ou ils sont troublés, ou ils sont complexés, et ça joue sur leur corps et sur leur santé. Il y a donc ces maladies qui ont leur origine dans l'âme. Il n'y a rien qui ne va pas dans le corps. C'est dans l'âme, dans la pensée, que ça ne va pas, et ça a un rôle, ça joue un rôle dans la santé du corps. Ça veut dire que, finalement, tout en soignant notre corps, nous avons besoin aussi de soigner notre âme. Autant nous avons besoin de médicaments pour chasser le mal du corps, on a besoin aussi de cultiver de bonnes pensées, des pensées qui vont nous faire du bien. Cette vie intérieure, c'est là où vous vivez, là où je vis. C'est notre demeure. On va essayer de découvrir ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Regardez maintenant 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Vous passez quelques pages dans le même sens, vers la fin du Nouveau Testament, et vous tombez sur la première lettre aux Thessaloniciens. C'est des gens qui habitaient en Macédoine à l'époque. Paul avait visité ces gens-là, et l'église avait été fondée, il leur a écrit 2 lettres. Et dans la première lettre, le 5e chapitre, et le 23e verset, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On est 3 parties, esprit, âme et corps. Alors qu'est-ce que c'est que l'âme? Qu'est-ce que c'est que l'âme? Eh bien, votre âme, c'est tout ce qui constitue votre personnalité. Il n'y a pas 2 flocons de neige qui soient pareils. Il n'y a pas 2 âmes qui soient identiques. On est tous très différents les uns des autres. Notre vie intérieure est absolument unique. C'est votre caractère, votre disposition, votre personnalité. Notre âme est composée donc de 3 parties, on l'a vu hier soir, notre intellect, notre capacité de comprendre et de réfléchir, nos émotions, tout ce qu'on peut ressentir, et notre volonté, la capacité de prendre des décisions. Il y a dans cette âme notre conscience, et il y a aussi une nature pécheresse, c'est-à-dire il y a quelque chose en nous qui aime ce que nous savons être mauvais. C'est quand même curieux. On sait que c'est mauvais, on est quand même attiré. Regardez, on va revenir dans l'autre sens maintenant. On va revenir dans l'épître de Paul aux Romains, dans la lettre aux Romains. Et on a cette vie intérieure décrite pour nous. Par exemple, verset 14, verset 15. Je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Bon, problème, ça, il a un problème, cet homme. Et vous avez le même problème que lui et moi aussi. Parfois, on se parle à soi-même. Espèce d'idiot, mais pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui t'a pris pour faire une telle chose? Tu savais très bien qu'il fallait pas le faire, et pourquoi tu l'as fait? Puis, on se parle à soi-même, mais oui, mais je ne sais pas, j'ai pas réfléchi, j'ai fait ça sans réfléchir, bon, mais tant pis, c'est pas... Mais non, mais attends, mais qu'est-ce que tu... Mais Qu'est-ce que tu fais? On se parle à soi-même, hein? Mais tu ne voulais pas faire ça, tu ne voulais pas dire ça, tu ne voulais pas faire du mal à cette personne que tu es son ami. Pourquoi tu as dit ça? Est-ce qu'on ne se parle pas comme ça parfois? On a quelque chose en nous qui aime le mal et il y a quelque chose en nous qui déteste ça. Donc on est tout en contradiction. Notre âme est en fluctuation constante. Les influences environnantes. Vous voyez quelqu'un dans la rue avec lequel vous ne vous entendez pas. Tout à coup vous sentez, vous êtes tout tendu, j'espère qu'elle ne me voit pas, vous êtes vous faire visible, vous passez votre chemin. La personne, hey, salut! Vous approchez un jour, ça va. Vous êtes tout troublé, vous êtes tout torturé à l'intérieur. Notre âme est le siège où se détermine notre manière de penser, notre philosophie de vie. Quelle est votre philosophie de vie? En France, beaucoup d'entre nous, on est des épicuriens. Petit café, mais pas trop, ça énerve. Quelques légumes, ça fait du bien, un peu de viande, oui, pour les vitamines. Un dessert, mais alors petit, parce que le sucre, c'est pas bon pour l'organisme. Puis un peu d'exercice physique, et puis, voilà, comme les épicuriens disaient, le plaisir est l'absence de la douleur. Juste ce qu'il faut, vivre une bonne vie équilibrée, un esprit sain dans un corps sain, vous savez, hein, ça c'est très, très français, hein, bien. Bien vivre, c'est ma philosophie de vie. Ne pas me laisser troubler par les choses, bien vivre simplement, s'entendre avec tout le monde, être agréable, voilà. C'est une philosophie de vie. Nous avons nos valeurs morales, nos valeurs personnelles, nos objectifs. Vous rencontrez souvent des gens qui disent, écoutez-moi, je respecte toutes les opinions. Je respecte votre opinion. Vous respectez la mienne. Ils vous disent, mais vous avez votre vérité, j'ai ma vérité. Nos vérités sont peut-être différentes, mais ça se rattache à la même vérité. Au fond, tout le monde croit la même chose et tout le monde va dans la même direction. Hein? Bah. Et ils veulent que vous disiez, mais bien sûr, évidemment, et tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est une philosophie de vie, c'est une manière de vivre, c'est une manière de réfléchir. Ça, c'est notre âme. Notre âme a des besoins. Il y a des besoins qui sont énormes. Nos âmes ont, par exemple, on a besoin d'être reconnues. Une femme qui prépare le repas de son mari. Le mari rentre. Bon, qu'est-ce qu'on mange? Et voilà, c'est prêt. Bon, hein, que ça saute. D'abord, j'ai faim. Et puis, il s'en va. Et puis, elle pleure. Mais pourquoi tu pleures? C'est bien ce que tu as fait. Ah, mais tu ne m'as pas dit que c'était bon. Mais oui, c'était bon, c'est toujours bon. Pourquoi? Parce que je dis tous les jours, quoi. Et elle dit, oui, mais moi j'ai besoin que tu me dises que c'était bon. On a besoin d'être reconnu, on a besoin d'avoir des compliments, on a besoin que les gens nous disent, je t'aime. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont criminels et qui sont délinquants parce que leurs parents ne leur ont jamais dit qu'ils les aimaient. Ou cette phrase assassine que parfois les parents disent en présentant leur dernier-né, celui-là il est venu bien plus tard que les autres, on n'avait pas prévu, c'était une surprise. Quand ils disent pas, mais celui-là on ne le voulait pas. Comment voulez-vous que le gosse se sente quand il apprend que ses parents ne voulaient pas qu'il naisse? Nous avons besoin d'être reconnus, on a besoin que les gens nous fassent comprendre qu'on a de la valeur. L'âme a besoin du sens de la destinée. C'est pour ça que beaucoup de retraités, ils meurent quelques années après avoir pris la retraite, ils sont en bonne santé, mais ils disent, j'ai travaillé toute ma vie, j'avais de la valeur, j'ai ramené de l'argent, j'étais reconnu dans mon travail, j'étais expert dans mon métier, maintenant à quoi je sers? Je suis à la retraite, je mange, je ne travaille plus, je ne produis plus, à quoi je sers? Autant mourir. Et ils meurent parce qu'ils sentent qu'ils n'ont plus aucune raison de vivre. Il y a des jeunes, on leur dit, mais amusez-vous. Ils disent, mais ça ne me suffit pas de m'amuser. Est-ce qu'il n'y a pas une cause, une grande cause à laquelle je peux me consacrer? Je veux sentir que ma vie vaut quelque chose, que je ne vis pas uniquement pour les plaisirs et pour moi-même. Vous avez beaucoup de jeunes aujourd'hui qui vont le vendredi soir au bistrot et qui boivent, qui achètent des litres d'alcool et qui boivent, qui tombent dans des comas éthyliques, qu'ils sont en train de casser leur vie. Pourquoi font-ils ça? Ils n'ont aucune raison de vivre. Ils n'ont rien. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. L'avenir va paraître bouché, disent autant que je me tue à l'alcool. Et ça, c'est de plus en plus fréquent. On a besoin d'être aimé. Ce sont les besoins de notre âme. Il y a des maladies de notre âme aussi. Peut-être vous en avez connu, peut-être vous êtes dans une maladie de l'âme ce soir. La dépression, le découragement, l'orgueil. Ça, c'est une terrible maladie de l'âme, l'orgueil. Ou une conscience qui est cautérisée. On peut faire les pires crimes, on ne sent rien, c'est normal. Ou la perte de la boussole morale. Je ne sais plus ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Je fais selon comme les gens le veulent, voilà, ça c'est vrai, bon c'est faux, bon c'est faux, ça c'est vrai, ben je ne sais pas. Je ne sais plus où j'en suis, j'ai perdu le nord. C'est la maladie de l'âme. Ce sont des maladies terribles qui plongent les gens dans une tristesse et dans une détresse incroyable. Et ces gens-là nous entourent. Et peut-être vous en faites partie, ou peut-être vous dites, je me souviens d'un moment dans ma vie quand mon âme était vraiment malade. C'était le plus mauvais moment de ma vie. Moi je me souviens, en 1989, j'ai vécu presque une année, j'étais tout près de la dépression. C'était terrible. C'était la pire année de ma vie. J'ai vécu des moments plus difficiles sur le plan physique, mais ça c'était pour moi horreur, puisque mon âme était découragée et dépressive. Qu'est-ce que l'âme ? Deuxièmement, parlons du diagnostic de l'âme. Imaginons que l'on aille devant un médecin et il dit, voilà, moi je suis un médecin de l'âme et je veux faire le diagnostic de votre âme, de votre vie intérieure. D'abord, comment a commencé notre âme ? En Genèse chapitre 2, ça c'est le tout premier livre de la Bible, dans le deuxième chapitre, voilà comment notre âme a commencé. Au début, notre âme humaine était comment? Eh bien, dans le verset 17 du chapitre 2, Dieu disait à Adam et Ève, il donnait cet ordre, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu donne un commandement, un seul commandement, une seule interdiction au premier couple. Je vous demande uniquement de ne pas manger du fruit de cet arbre-là. C'est le seul. L'homme et la femme, ok, bon. Il n'avait pas encore pris de décision. Est-ce qu'on va observer ce commandement ou est-ce qu'on va ne pas obéir? Il n'avait pas encore pris la décision. Leur âme était innocente. Si on leur avait dit, qu'est-ce que le bien et le mal, ils n'auraient pas pu répondre. Ils ne connaissaient pas la différence entre le bien et le mal. Et dans le verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ils étaient innocent, dans l'innocence. Alors, par un choix moral, le premier choix moral que l'homme a fait était un mauvais choix, on peut le dire. L'homme et la femme ont décidé de faire la seule chose que Dieu leur avait interdite, de manger du fruit de cet arbre défendu. Ils se sont approchés de l'arbre, Satan était là pour leur dire, vous comprenez que ce serait pas mal, parce que Dieu vous exploite quelque part, il ne veut pas que vous mangiez de ce fruit, mais parce que si vous en mangez, vous savez, vous seriez comme lui. Ça ne l'arrangerait pas trop, alors vous voyez un peu ce que vous avez à faire. La femme est séduite par ce discours, l'homme, il suit, mais volontairement, il prend et il mange de ce fruit défendu. Immédiatement, ils connaissent la différence entre le bien et le mal. Et immédiatement, ils ont honte de leur nudité, ils se cachent, ils ont peur. À ce moment précis, l'homme et la femme, l'humanité, puisque c'est le premier couple, reçoit une nature pécheresse. Dans le catéchisme, on appelle ça le péché originel, n'est-ce pas? Le péché originel, ce n'est pas un péché que vous avez commis. C'est un péché qu'Adam et Ève ont commis. Et comme nous sommes tous issus de leur union, nous sommes tous les enfants d'Adam et Ève, nous sommes tous des êtres humains, nous avons hérité de la connaissance du bien et du mal, et nous avons hérité d'un penchant qui nous pousse à faire le mal. Vous n'êtes jamais obligé d'enseigner un enfant à pleurer de colère. Vous imaginez les parents qui disent à l'enfant, « Allez, un peu de colère maintenant !»« Quoi, qu'est-ce que c'est que la colère ?» Non, non, non. L'enfant, il montre la colère peu de temps après sa naissance. Vous ne changez pas sa couche, vous attendez un petit moment pour lui donner un biberon. Au début, il pleure parce qu'il a faim. Il fait comme ça, « Ouais, ouais, on sent la faim dans son... » Et puis quand il voit que ça ne vient pas, il fait « Ah, ah, ah !» On entend un enfant de 3 ans, « Ah, ah !» Et puis, c'est la colère. D'où lui vient la capacité de se mettre en colère? Et c'est en lui, c'est dans sa nature. On n'est jamais obligé, un enfant ne dit pas « Merci » naturellement. Vous lui donnez quelque chose, il le prend. Puis on regarde comme ça, c'est il faut lui apprendre, dit merci. On est obligé de lui apprendre à faire le bien, on n'est pas obligé de lui apprendre à faire le mal, il fait ça naturellement. Une nature pécheresse dès notre conception. Et alors, ce péché, cette nature fonctionne par la convoitise. La Bible dit en Jacques 1, il dit, Dieu ne tente jamais personne, mais l'homme est attiré et amorcé par sa convoitise. On passe à côté de quelque chose et les enfants, quand ils vont dans les magasins de jouets, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, maman, est-ce que je pourrais avoir un seul jouet? Ah non. Maman, je veux ça, et ça, et ça, et ça, ils veulent tout le magasin. Hein? Et maman dit, un seul jouet, si vrai juste. Hein? Et puis ils pensent que vraiment on le prive en lui donnant un seul jouet. Généralement, il sort avec 5 ou 6 à force d'insister. Mais on a une convoitise, on a un désir de posséder les choses. Donc l'homme a cette nature pécheresse, à cause de cette nature, il a perdu son intimité avec Dieu. On peut dire aujourd'hui, tous les êtres humains, on peut dire, si on ne connaît pas Jésus-Christ, je ne connais pas Dieu, je n'ai pas d'intimité avec Dieu. Même les gens qui sont les plus religieux, qu'est-ce qu'ils disent? Je cherche. Il y a des gens en Orient qui font ça, le zen. On sent l'énergie qui monte en soi. On cherche à fondre dans l'universel. Mais c'est de la recherche. Ils ne disent pas, j'ai trouvé la paix profonde. Ils ne disent pas, j'ai trouvé le vrai bonheur. Ils disent, je cherche à me fondre dans l'onde cosmique, dans le nirvana, dans le néant. Je ne sais pas ce que je cherche, mais ce que je cherche, je n'ai pas encore trouvé. L'homme est privé de la connaissance de Dieu. Il n'a pas de relation avec Dieu à cause de son péché. Dieu dit en Ésaïe, Dieu dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Pour dire en Romains, tous ont péché, tous, ça veut dire tous, vous, moi, tout le monde. Nous avons tous péché, nous sommes tous privés ou séparés de la gloire de Dieu. Allez demander à 10 personnes dans la rue, est-ce que vous vivez dans la gloire de Dieu? Ils vont dire pardon. Et si vous êtes sur la planète Terre, là, hein? La gloire de Dieu, c'est pas ici. Hein? Je ne connais pas la gloire de Dieu. Je n'ai pas d'idée ce que c'est. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché. Ils n'ont pas de contact avec Dieu. On dira aussi aux Éphésiens, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Non seulement on ne connaît pas Dieu, mais on a l'idée que Dieu existe, mais comment le connaître? On n'a pas absolument aucune idée. Alors les gens font comme ils peuvent, mais je crois qu'il faut être gentil, il faut être bien, il faut faire plus de bien que de mal, il faut avoir une bonne moyenne, il faut avoir un bon karma, il faut... Mais normalement, ça devrait aller. Ça montre qu'on n'a aucun concept. Comment être en règle avec Dieu? On ne le connaît pas. Non seulement on ne connaît pas Dieu, mais ce diagnostic nous montre que finalement on est corrompu, on ne pense pas comme Dieu. La Bible dit en Corinthiens chapitre 2, l'homme naturel, l'homme tel qu'il est, vous et moi, comme nous sommes là, l'homme naturel n'accepte pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître. C'est un peu comme quand David commence à vous parler en hongrois. Je trouvais qu'il avait un magnifique accent hongrois. Vous ne trouviez pas? Hein? Ça sortait comme ça naturellement. Mais vos visages et les miens manifestaient la même réaction. On ne souriait pas, on ne comprenait rien. Et quand Dieu nous parle de son point de vue, on est comme ça. On ne comprend pas. C'est un langage qu'on ne comprend pas. C'est un raisonnement qui ne résonne pas en nous. On n'accepte pas les choses de Dieu. On ne peut pas les connaître. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Quand Dieu dit, pour moi c'est logique, on est là, comment? C'est logique. Moi c'est pas logique pour moi. On n'est pas sur la même longueur d'onde. On pourrait dire, on n'est pas sur la même planète. Hein? Dieu est différent de nous. Dieu nous dit ceci, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et on pourrait tous dire, c'est vrai, ça me concerne, je ne fais pas le bien. Je fais du bien, attention, je ne suis quand même pas un criminel. Mais entre faire du bien et faire le bien, il y a quand même un fossé, il y a quand même un abîme. Faire quelques bonnes choses de temps à autre quand ça nous arrange, c'est pas mal, mais faire uniquement ce qui est bon en tout temps et ne jamais, jamais faire une chose mauvaise, mes amis, on n'y est pas. Et on n'y sera jamais. Parce qu'on a ce péché, on a ces mauvais désirs qui nous collent à la peau. Notre âme est malade. Alors Dieu dit, il faut faire quelque chose pour cette âme. Vous savez, Dieu aime votre âme. Aujourd'hui, c'est le corps qui compte. Vous allez dans la rue, vous allez dans une boutique à côté, ils ont des top modèles, hommes et femmes, montrant telle veste, vous irez bien sûr. Si vous aviez la silhouette du top modèle, tout vous va bien, hein. Ça veut dire une silhouette comme la mienne, c'est pas grand chose qui vous iront bien, mais enfin bon, on nous met les top modèles devant et on dit, regardez ce corps, regardez ce vêtement, regardez ce maquillage, regardez cet appareil, regardez comment vous pouvez être, puis on peut faire de la gym aussi, et puis on peut se sculpter encore et tout est tourné autour du corps. Nos corps sont merveilleux, nos corps sont tellement complexes. Mais ce que Dieu aime chez vous et chez moi, c'est notre âme. Il aime le vrai vous. Il vous aime autant quand vous avez 85 ans et que votre peau est toute ridée et que vous marchez en tenant le dos. Il vous aimera autant à ce moment-là que si vous êtes un beau jeune homme ou une belle jeune fille de 20 ans. Ça n'a aucune importance pour lui. C'est votre âme qu'il aime. Et c'est votre âme qu'il veut sauver. Alors comment sauver cette âme qui est remplie de convoitise, qui est remplie d'orgueil, qui est malade, qui est parfois dépressive, qui ne connaît pas Dieu, qui vit pour lui-même, qui est prisonnière de sa convoitise? Comment Dieu peut-il faire pour sauver cette âme, votre âme? Nous lisons en Romains chapitre 3 quelques versets qui nous expliquent ce que Dieu a fait et comment lui il voit la situation. En Romains chapitre 3, verset 23, Dieu dit, il n'y a pas de distinction. Tous sont pareils. Tous ont péché. Et sont privés ou coupés de la gloire de Dieu. Ça revient à la diagnostic qu'on a fait. Hein. On est privé de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous ce soir dans un tribunal. Vous êtes dans un tribunal. Alors vous n'êtes pas l'avocat, malheureusement. Vous n'êtes pas encore, vous n'êtes pas le juge non plus. Vous êtes l'inculpé. C'est votre procès. Et vous êtes là et vous avez les chocottes, vous tremblez un peu quand même, vous êtes devant le juge. Vous vous apercevez que le juge n'a pas besoin de mémoire, il n'a pas besoin de petites fiches. Il sait tout sur vous. Il vous raconte tous les détails de votre vie. Non seulement il vous raconte ce que vous avez fait, mais il vous raconte ce que vous pensez. Et puis vous dites, pourquoi vous pensez ce que vous pensez? Puis il dit, voilà vos motivations et vos pensées les plus secrètes, les pensées que vous n'allez jamais partager avec personne. Il vous les dit à haute voix et vous êtes choqués, mais ce juge, il me connaît entièrement. Je ne peux rien lui cacher. C'est terminé, moi je suis condamné, il n'y a pas à tortiller. Et c'est tout, c'est fini, je suis condamné. Effectivement, comme on le craignait, dit, vous êtes condamné. Puis, des coulisses vient un avocat. Vous dites, ah, oui, mais à quoi ça me sert d'avoir un avocat? Le juge connaît tout à mon sujet, il ne pourra rien plaider, il n'y a rien à plaider. Et l'avocat dit, je viens plaider la cause de ce criminel en vous indiquant. Et vous dites, qu'est-ce qu'il va pouvoir plaider? Il dit, je ne viens pas plaider les mérites de mon client. Il dit, je viens plaider mes mérites. Ça ne s'est jamais vu dans un, ça ne s'est jamais vu dans un simple tribunal qu'un avocat vienne plaider ses mérites. Non, il plaide toujours, vous voyez le coupable, vous savez les circonstances atténuantes, il ne savait pas, il était fou, il était trop jeune, il était trop... Non, il dit, je viens plaider mes qualités. Il dit, je reconnais que mon client est coupable. Je reconnais qu'il mérite le jugement éternel. Monsieur le juge, vous avez tout à fait le droit de le condamner. C'est ce qu'il mérite. Je suis d'accord avec ce verdict. Et vous dites, oulala, ça commence mal. Il dit, oui, mais j'ai payé sa condamnation éternelle. Moi, je l'ai payé pour lui. Et votre avocat dit, mais parce que moi je n'ai jamais péché, je me suis porté comme son substitut. Et monsieur le juge, je vous demande de déclarer que mon client est juste. Non pas qu'il le soit en lui-même, on est d'accord, il est un pécheur, mais je veux l'entourer de ma justice et je voudrais que tu le déclares juste. Et le juge dit, c'est d'accord. Je veux bien reconnaître que ce pécheur condamné est juste. Et d'ailleurs, je l'écris, je le déclare juste. Tu es justifié. Mais c'est grâce à ton avocat, c'est pas grâce à toi-même. Qui est cet avocat? C'est Jésus-Christ. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est la condamnation. Mais il dit, tous sont gratuitement justifiés par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Quand Christ a versé son sang sur la croix du calvaire, il a payé pour vos péchés et pour les miens. Et Dieu a accepté ce marché, il a accepté cette substitution. Si le juge est d'accord avec l'avocat, c'est bon pour vous. Et vous sortez de ce simple tribunal abasourdi. J'étais sûr que j'allais vers ma condamnation et voilà qu'on me déclare juste. Comment ça se fait? Mais quelqu'un a payé pour moi. Et c'est ainsi et que seulement ainsi que Dieu peut nous recevoir et sauver votre âme. Non seulement Jésus a payé pour votre justification, pour que Dieu vous déclare juste, mais Christ a payé pour votre sanctification. Ça veut dire que quand vous avez placé votre confiance en Jésus-Christ, Dieu vous a pris de là où vous étiez, de parmi les condamnés, et vous a mis dans sa famille, il vous a mis à part. Et la Bible dit, celui qui nous a fermés avec vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu. Qui a aussi nous a marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Dieu vous a scellé d'un sceau invisible sur votre âme. Il a dit, voilà, ça c'est le sceau de propriétaire. Désormais, en Jésus-Christ, tu m'appartiens, tu es mon enfant pour l'éternité. Je viens de t'adopter dans ma famille. Je viens de devenir ton père adoptif. C'est magnifique. Mon âme est déclarée juste par le sacrifice de Christ. Mon âme est mise à part dans la famille de Dieu. Je fais partie de cette famille. Non seulement cela, mais tu dis, c'est pas fini, je vais aussi te glorifier, je vais te rendre glorieux, je vais t'amener au ciel, et je vais enlever tout le péché, et je vais te rendre parfait. Vous savez, il y a des gens qui sont perfectionnistes. Est-ce que vous êtes un perfectionniste? Moi non. Le jour là où, franchement, ma femme vous le dira. Je ne suis pas perfectionniste. Elle est perfectionniste. Alors parfois, elle est frustrée avec moi. Et le moindre effort, hein. Oh, mais je dis non, c'est pas mal quand même, tu vois, ouais. Oui, mais ça aurait pu être mieux. Oui, mais bon, pour le rendre parfait, il aurait fallu passer trois fois plus de temps. Pour moi, ça me suffit, mais pour un non. Est-ce que vous êtes perfectionniste? Si vous êtes perfectionniste, vous souffrez beaucoup de ne pas être parfait, n'est-ce pas? Oui, non. Je traîne encore ce défaut, encore j'ai fait cette bêtise, mais combien de temps j'ai encore fait des bêtises? Un jour, j'ai une bonne nouvelle pour vous, un jour vous n'en ferez plus. Un jour vous serez parfait, je serai parfait. Et Jésus a payé pour ça aussi. Écoutez ce que dit l'apôtre Dieu. Il dit, nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, les chrétiens vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Le Seigneur, lui-même, a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette, descendra du ciel. Et les morts en Christ, les vrais chrétiens, qui sont déjà morts, ressusciteront. Et les chrétiens qui sont encore vivants vont partir avec eux, dit-il, à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Jésus-Christ va nous rendre parfaits. Parfaits. On ne péchera plus. On n'aura même plus envie de pécher. Il nous sauve. Mais il fait quelque chose pour vous et pour moi aujourd'hui. Vous connaissez les 10 commandements? Hein, les commandements? Est-ce qu'ils sont bons? Ils sont très bons, excellents. Tout le monde devrait les observer, vous ne trouvez pas? Vous devrez les observer, moi aussi. Est-ce qu'on arrive à les observer? Non. La seule chose que la loi peut faire pour nous, c'est nous condamner. C'est la seule chose. Nous condamner. Jésus, quand il est mort, il a payé pour la condamnation de la loi. En Colossiens, Dieu dit ceci, Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. La loi de Dieu, les 10 commandements, vous condamne et me condamne. Mais quand Christ est mort pour vous, il a payé cette condamnation. Ce qui fait que la loi de Dieu ne peut plus nous condamner. Parce que quand la loi de Dieu nous condamne, Jésus dit, c'est vrai, mais j'ai payé pour sa condamnation. Il n'est plus condamnable. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y a un autre problème que nous avons dans notre âme. Peut-être vous avez ce problème. Je l'ai de temps à autre. Vous commettez un péché, peu importe lequel. Quelques temps après, vous dites, ouf, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai fait un péché! Seigneur, je te demande pardon, pardonne-moi d'avoir fait ce péché. Purifie-moi, je te t'en prie. Seigneur, enlève ce péché que j'ai fait, je t'en demande pardon. Le lendemain, vous vous levez et vous dites, et ce péché que j'ai commis hier? Oh oui, Seigneur, pardonne-moi le péché que j'ai commis hier! Et le lendemain, vous vous levez, et c'est la même chose vous revient, le péché que tu as commis il y a 2 jours. Oh, mais c'est que Seigneur, il y a 3 jours, j'ai commis ce péché, je te prie de me pardonner. Un jour, ça m'est arrivé. Pendant 10 jours, j'ai demandé pardon pour le même péché. C'est curieux, non? Le 11e jour, quand ça me revenait, et ça me troublait, et ça me tourmentait, et j'ai demandé à Dieu de me pardonner, tout à coup, quelque chose est venu dans mon cœur, ma pensée est venue dans mon cœur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et la question m'est venue à l'esprit, quand est-ce que Dieu a pardonné ton péché? je suis obligé de dire, mais la première fois que je l'ai confessé. Alors, d'où vient cette pensée de condamnation que j'ai depuis 10 jours? Est-ce que ça vient de Dieu? Ça ne venait pas de Dieu. C'était un piège du diable pour me garder dans la culpabilité. Et en Hébreux chapitre 9, écoutez ceci. La Bible dit combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Un jour que je parlais sur ce verset, une dame est venue me voir, elle avait au moins 70 ans. Elle m'a dit, monsieur, j'aurais voulu entendre ce message il y a 50 ans. Parce que depuis 50 ans, je me dis, je ne peux pas servir Dieu à cause de ce que j'ai fait. Et elle a dit, si j'avais vraiment compris que le Seigneur m'a purifié de mes anciens péchés, j'aurais pu le servir avec confiance. Mais quand j'ai pensé, et cette voix venait de dire, oui, mais après ce que tu as fait, comment oses-tu penser que Dieu peut se servir de toi? Vous savez qui tient ce discours? C'est pas Dieu. Dieu veut qu'on le serve. Vous dites, oh oui, mais vous ne connaissez pas mon passé. Allez regarder le témoignage de l'apôtre Paul, votre passé n'est pas aussi mauvais que le sien. Est-ce que vous avez tué plusieurs personnes dans votre passé parce qu'elles étaient chrétiennes? Est-ce que vous avez haï des chrétiens au point de vouloir les tuer? Et est-ce que vous êtes passé à l'acte plusieurs dizaines de fois? Ah oui, ah non, ça non. C'est ce qu'a fait Paul. Et quand Dieu l'a sauvé, Dieu lui a pardonné, Dieu l'a purifié, et il est devenu le plus grand des apôtres. Et il dit, vous savez, je suis le plus grand de tous les pécheurs. Moi, j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais il dit, la grâce de Dieu envers moi n'a pas été en vain. Il a dit, Dieu a fait plus à travers mon ministère qu'à travers les autres apôtres. Mais ce n'est pas grâce à moi, il dit. C'est grâce à Dieu qui a travaillé en moi. Ça, c'est ce que Dieu fait pour sauver notre âme, pour nous purifier, pour nous pardonner, pour nous sceller, pour nous utiliser, pour nous délivrer de la condamnation, pour nous restaurer. Jésus-Christ a fait tout ça pour vous et pour moi. Il a sauvé notre âme. Et maintenant, à vous et moi, de l'entretenir. Comment pouvons-nous entretenir notre âme? Regardons. En Corinthiens 11. Imaginez que qu'on vous montre un joli logement tout neuf. Tout propre. On est passé là-dedans avec tous les produits antiseptiques. Il n'y a même pas de microbes dans ce logement. Ils sont tous morts. On a fait un ménage comme dans un laboratoire. C'est flambant neuf. Tous les meubles sont neufs. Propre, c'est super. On vous laisse dans cette maison et ça ne peut pas être plus propre que ça n'est. C'est tellement propre. Et puis, un mois passe et vous dites, je ne fais pas le ménage, mais ça me paraît toujours aussi propre. Et deux mois passent, vous dites, ça me paraît un peu moins propre, mais c'est quand même très acceptable. Trois mois passent, vous dites, bon, c'est moyen, c'est comme la plupart de mes voisins. Quatre mois passent, vous dites, ça commence à se dégrader un peu, mais c'est quand même tolérable. Un an passe. Et les gens entrent chez vous et disent, vous ne faites pas le ménage? Oh ben non, c'était tellement bien au départ, et lentement ça s'est dégradé, mais je me suis habitué. Dieu ne fera pas votre ménage. Il vous donne l'appartement, il ne fera pas le ménage à votre place. L'entretien de notre âme, c'est à nous de le faire. Comment pouvons-nous faire le ménage, l'entretien? Dans le verset 28, en Corinthiens chapitre 11, c'est avant le repas du Seigneur, il dit que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Si on voudrait de la lessive Saint-Marc avec de l'eau chaude, puis en bas les brosses, dans un seau, et votre maison ressemble à une porcherie, vous allez dire merci pour la lessive, merci pour l'eau chaude, merci pour le seau, et merci pour le bas des brosses. Vous mettez tout ça dans un coin, et l'eau refroidit, puis vous ne vous en servez pas. On va vous prendre. Vous n'avez pas compris le message qu'on a voulu vous communiquer. Nous nous approchons de la table du Seigneur. Et nous savons que le sang a coulé pour nous laver de tout péché. Le Seigneur dit, quand tu prends ce pain et cette coupe, et tu te souviens de la mort du Christ qui t'a purifié de ton péché, tu devrais avoir la pensée de faire le ménage dans ton âme avant de prendre le pain et la coupe. Éprouve-toi. Ça veut dire qu'on a une conscience qui nous permet de savoir si notre âme est malade ou si notre âme est souillée, si le ménage a été fait récemment ou si ça fait longtemps. Quand nous pénétrons dans notre âme par notre conscience, nous pouvons voir si nous avons de l'orgueil. On peut voir si on en a. Dieu nous permet de voir en examinant si nous avons de la jalousie. Et vous savez, la jalousie, c'est une terrible maladie à avoir. La jalousie, mais ça vous ronge. Il y a une autre maladie qui est horrible, c'est l'amertume. Il y a des gens qui vivent dans l'amertume. Ils sont amers contre Dieu, ils sont amers contre l'Église, ils sont amers contre les gens qui les font souffrir, parfois ils sont amers contre leurs enfants. L'amertume. Il y a la colère, la convoitise. On vient et dit, Seigneur, chaque fois que je passe devant cet endroit, c'est plus fort que moi. Seigneur, chaque fois que je regarde dans cette télé, cette émission, c'est plus fort. Seigneur, chaque fois. On peut avoir toutes sortes de convoitises et on dit, mais je suis esclave de cette chose-là. Je ne suis pas libre, je ne peux pas dire non. Toujours il faut que je dise oui et je me sens horrible, mais comment faire autrement? Si on fait le ménage, on voit ce qu'il y a dans notre cœur. Et Pierre dit, bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises qui font la guerre à l'âme. Moi, je pourrais vous citer deux ou trois choses. Que quand je m'éloigne un peu du Seigneur, ces choses sont très tentantes. Oh, j'ai envie d'aller dans cette direction-là. Et si je ne fais pas attention, je plonge facilement. Les convoitises qui font la guerre à l'âme, qui m'ont toujours sous tension. Je devrais obéir à Dieu, mais moi j'ai tellement envie. Dieu dit, quitte ces choses-là. Abandonne cette activité. Abandonne cet endroit. Abandonne ce passe-temps. Abandonne-le puisque tu vois que chaque fois que tu t'approches, tu as une guerre intérieure et tu n'es pas à l'aise. Sois libre. Coupe le cordon. Libère-toi de cette convoitise. Si nous écoutons attentivement notre conscience, nous saurons quels péchés sont en nous. Le Saint-Esprit nous révélera les péchés qui sont en nous. Il faut être vraiment sincère. Parfois, je connais des âmes qui sont tourmentées. Seigneur, quels sont mes péchés? Montre-les-moi, le Seigneur dit. Regarde l'orgueil. Ah oui, ça je le vois, j'ai l'orgueil. Seigneur, pardonne-moi de mon orgueil. Puis, Seigneur, est-ce qu'il y a un autre? Mais la jalousie que tu avais pour ce frère la semaine dernière, tu te souviens? Oh oui, je me souviens, Seigneur, pardonne-moi de cette jalousie. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose? Et puis oui, cette émission que tu as regardée, ça a souillé ton cœur. Ah oui, c'est vrai, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, est-ce qu'il y a autre chose? Et puis, il n'y a pas d'autre péché qui vient. Puis, les gens disent, oh oui, mais j'ai confessé toi, mais Seigneur, je vais te confesser d'autres péchés, je ne vois pas lesquels c'est, mais il doit y avoir plusieurs dizaines. Je disais, écoutez, détendez-vous. Si le Saint-Esprit veut vous montrer d'autres péchés, il vous les montrera comme il vous a montré ces trois-là. Si vous n'en voyez pas d'autres, ne confessez des péchés que vous n'avez pas commis. Ne vous tourmentez pas. Le Saint-Esprit vous montrera les péchés que vous avez commis. C'est son rôle. Il le fera si vous voulez les connaître. Le problème avec nous, c'est que parfois on ne veut pas les connaître. Ou on les justifie. Oui Seigneur, c'est vrai que j'ai un petit brin de jalousie, mais est-ce que tu as vu la sœur à côté? Elle est rongée par la jalousie. Elle en a des tonnes, mais tu n'en vas pas Seigneur, mais tu devrais la convaincre plutôt que moi. Moi j'ai quelques grammes, ça devrait passer. Plus nous sommes sincères, plus le Saint-Esprit montrera nos péchés, plus vite nous en sommes délivrés, plus notre âme est propre, plus nous sommes dans la joie. La chose qui enlève notre joie, c'est le péché. Et la raison pour laquelle le péché demeure dans notre vie intérieure, c'est qu'on ne veut pas faire le ménage. C'est pénible, c'est douloureux parfois. Parce que nous avons l'impression que nous ne sommes pas si mal que ça. Et ça nous fait mal de voir qu'on est plus pourri qu'on ne pensait. Dieu nous invite, vous et moi, à ne se faire aucune illusion sur nous-mêmes. Nous sommes capables de tous les péchés imaginables, tous entre chacun d'entre nous. On a une nature qui est vraiment corrompue. Mais grâce à Dieu et grâce à cette sincérité que Dieu veut nous donner et grâce à son esprit, on peut rester vraiment propre. On peut avoir une âme vraiment pure dans l'ensemble. Et confessons les péchés à ceux auxquels nous avons fait du tort. Quand David a péché avec Bathsheba, en psaume 51, si vous lisez un jour ce psaume, il dit « Seigneur, d'abord, j'ai péché avec Bathsheba, j'ai commis cet adultère, j'ai tué son mari, j'ai commis ce meurtre, j'ai d'abord péché contre toi. J'ai péché contre Uri, son mari, mais j'ai d'abord et avant tout péché contre toi. » Et il a dit, Seigneur, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Il dit, tu veux que je sois pur. Il dit, fais pénétrer ta vérité au-dedans de moi. Il dit, sonde-moi et connais mon cœur. Vois si je suis sur une mauvaise voie. Est-ce que ça nous arrive quelquefois, Dieu Seigneur, il me semble que je suis sur une bonne voie, mais est-ce que je me convainc moi-même? Montre-moi si je me trompe. David était réellement purifié de son péché. Dieu l'a purifié et l'a restauré complètement. Parce qu'il était honnête avec Dieu. Ce que Dieu a fait pour lui, Dieu peut le faire pour vous et pour moi. Si nous avons offensé quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, mais oui, c'est vrai que je l'ai offensé, mais bon, il sait que j'étais énervé ce jour-là, j'ai bu trop de café, puis voilà, c'est comme ça, c'est parti, une explosion ou... Bon, si vous avez offensé quelqu'un, vous l'avez offensé à lui demander pardon, où est le problème? Ah, mais oui, non, mais je ne pourrais même pas me traîner devant cette personne et demander pardon, j'aurais l'air de quoi? Et vous aurez l'air de quelqu'un de sincère. Déjà pas si mal. Dieu dit, si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va régler, te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Nous faisons l'examen de notre conscience, de notre âme pour faire le ménage. Ah, nous nous apercevons que nous avons fait du tort à quelqu'un, nous avons offensé quelqu'un. Nous allons voir cette personne, lui demander humblement pardon. Vous savez, parfois, on demande pardon sans le demander. On a des petites astuces aussi. Voilà une des astuces. Écoutez, si jamais j'ai fait quelque chose contre quelqu'un dans cette église, je vous en demande pardon. Tu vois, Seigneur, j'ai demandé pardon sans en avoir l'air. Ben oui, tu te l'arrives à l'air, non? Si jamais j'ai fait quelque chose, ça c'est pas une demande de pardon. On va aller vers la personne. L'autre jour, je t'ai mal répondu. Quand tu m'as dit ceci, je t'ai mal répondu. J'étais en colère et j'ai mal répondu. Je te demande de me pardonner. Ça c'est clair. Non pas si j'ai fait du tort, je te demande pardon. Parfois, vous direz, je t'ai fait du tort, mais non, c'est rien. Écoute, le Seigneur m'a convaincu, je t'ai fait du tort, je te demande de me pardonner. Veux-tu me pardonner? Non, vous. Souvent, la personne dit non, c'est pas grave, parce qu'elle sait qu'elle fait du tort à d'autres gens et elle ne voudrait pas leur demander pardon de manière si précise. Et c'est pourtant comme ça qu'on règle le problème définitivement. Et puis lire la Bible pour comprendre la pensée de Dieu. On a vu qu'on a des forteresses et des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. On pourrait l'illustrer autrement. Vous savez, quand vous avez de la boue dans un champ et vous descendez avec votre voiture, votre belle routière, votre BMW, d'accord? Il permet de rêver, n'est-ce pas? Et vous êtes là-dedans et vous voulez sortir et puis c'est la boue. Puis vous faites une ornière qui est comme ça. Puis là, vous ne pouvez plus sortir sauf à faire lever le tracteur du voisin. Mais c'est comme ça que parfois nous mettons des ornières dans notre manière de penser. On creuse un trou, on pense tellement d'une certaine manière que dans une ornière, on ne peut pas en sortir. La seule manière de sortir de cette ornière et de penser différemment, c'est de lire la Bible, de comprendre que j'ai une mauvaise manière de penser et je veux penser comme Dieu veut que je pense. Et il va nous sortir de cette ornière et nous délivrer de cette ornière, de cette forteresse dans laquelle nous nous sommes mis. Il a dit dans Philippiens 4, fixez nos pensées sur ce qui est bon et positif. Un petit exercice que vous pouvez faire chez vous. Faites une liste des choses dont vous êtes reconnaissant. Peut-être vous dites, non, moi je préfère faire une liste de tous mes problèmes. Je préfère faire une liste de tout ce qui ne va pas. Et croyez-moi, il y en a pour les pages. Et si on focalise sur ce qui ne va pas, on ne verra que ce qui ne va pas. Si on commence à se focaliser sur les choses qui vont bien, vous verrez, il y a encore plus de pages à garnir. Nous avions chez nous, il y a quelques années, une dame, une missionnaire, qui était atteinte d'une très grande problème d'asthme. Et on se demandait le matin si elle se réveillerait ou pas, ou si elle serait morte dans son sommeil. Et alors cette femme, malgré tous les problèmes qu'elle avait, toute cette maladie, toute cette faiblesse, elle dit, ça me coûte chaque fois que je respire. C'est une lutte pour elle, c'était une lutte pour elle de respirer. Et alors les gens lui ont dit, mais comment tu peux avoir cette joie, cette paix et cette sérénité avec tous les problèmes que tu as? Elle a dit, quand je me réveille, quand je suis réveillé, mais avant d'ouvrir mes yeux, je dis, Seigneur, merci de ce que tu me permets de me réveiller ce matin. Et elle a dit, je commence à compter mes bénédictions. Et elle commence à compter ses bénédictions. 1, 2, 3, 4. Souvent, elle avait une vingtaine. Et elle louait le Seigneur pour toutes ces choses. Elle comptait ses bénédictions avant même d'ouvrir ses yeux pour la première fois. Elle a dit, c'est sans doute cela. Je me lève dans la reconnaissance. Je vous le propose comme exercice. Ça transformera votre vie. Ça transformera votre manière de penser. Ce sera l'entretien de votre âme. Vous soignerez votre vie intérieure. La Bible dit, comme l'homme pense en lui-même, ainsi est-il. Vous êtes ce que vous pensez. Si nos pensées sont positives et pleines de reconnaissance, notre vie et notre attitude suivra. Si nos pensées sont pleines de critiques et de tristesse et d'inquiétude, on va être inquiet et triste toute la journée. Il ne tient qu'à nous de vouloir le faire. Et Dieu nous commande d'être reconnaissants. Quand nous avons des besoins, et nous en avons, il dit, mais présentez-moi tes besoins, mais dans la foi et dans l'humilité. Et alors que tes besoins sont toujours devant toi, il dit, je te donnerai une paix qui surpasse toute intelligence et qui surpasse toute logique. Vous allez avoir une paix alors que vos problèmes ne sont même pas encore résolus. Et les gens vont dire, comment se fait-il que tu vives dans une telle paix avec les problèmes que tu as? Et vous allez pouvoir répondre, parce que je fais ce que Dieu me dit. Je présente mes besoins dans la foi et l'humilité et je le remercie parce qu'il va s'occuper de ses besoins et je ne m'en inquiète plus. Je ne m'en inquiète plus. C'est un ordre que Dieu nous donne. nos péchés, nos pensées plutôt, sont un domaine où Satan nous attaque. Vous avez jamais lu Éphésiens 6 sur l'armure du chrétien? Hein? Cette armure du chrétien, ce n'est pas pour combattre le diable ou aller combattre les gens dans la rue. Cette armure du chrétien, c'est pour combattre nos mauvaises pensées et combattre Satan qui tire des flèches dans nos pensées. Satan tire des traits dans nos pensées. Il nous attaque en nous envoyant de mauvaises pensées. Et quand on commence à repérer quelles sont ces mauvaises pensées, et on met l'armure du chrétien, on est protégé contre elles. On arrive à les renvoyer par le bouclier de la foi. Par exemple, il vous envoie une flèche à votre tête. Donc, quand vous envoyez une flèche sur la tête de quelqu'un, normalement c'est mortel. Il envoie une flèche à votre tête. Mettez le casque du salut. Je suis sauvé, sauvé par le sang du Christ, et je ne peux pas être perdu. Je suis en Christ. Ça vous enverra la flèche dans le décor. Il envoie une flèche à votre poitrine. Et cette flèche dit, est-ce que Dieu va vraiment tenir ses promesses? Il dit, prenez le bouclier de la foi. Envoyez cette flèche dans le décor. Elle ne vous atteindra pas. Il envoie une flèche à votre poitrine. Et cette flèche dit, mais toi, tu as beaucoup de choses à te reprocher. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'accepter comme tu es? Montre-lui que votre poitrine est couverte de la cuirasse de la justice. Ma justice n'est pas de moi, elle est de Jésus-Christ. C'est pas moi qui suis bon, c'est Christ qui est bon. Et c'est pour ça que je suis sauvé. Et cette flèche viendra et s'enverra dans le décor et nous fera de mal. Puis il envoie une flèche à vos pieds. Et puis alors Satan vous dit, mais tu ne vas quand même pas aller témoigner aujourd'hui, il fait froid dehors, il pleut, et puis les gens, ils ne sont pas sympathiques, et puis tu vas te faire ridiculiser. Tu mettes les chaussures du zèle que donne l'évangile, j'y vais quand même. Et puis, pour attaquer Satan, vous prenez la parole de Dieu qui est une toute petite épée comme ça, comme un grand couteau, pour faire du corps à corps. Comme Jésus a fait avec le diable. Quand il me tente, il est écrit. Il est écrit. Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Et Satan ne peut pas résister aux estocades de la parole de Dieu. Et à mesure que nous connaissons les versets de la Bible, on peut lutter contre ces mauvaises pensées et entretenir notre âme dans la pureté. Puis enfin, et je termine, pour entretenir notre âme, comme c'est lié à notre corps, il faut mettre nos membres au service de Dieu. Si vous dites, moi je veux avoir un cœur pur et puis une âme limpide et transparente et avoir une excellente santé spirituelle, mais je ne veux rien faire pour Dieu. C'est pas possible. C'est comme vous disiez, je veux rester dans mon lit pendant les 10 prochaines années, je ne veux pas bouger un seul muscle et je veux avoir une santé magnifique. Vous allez tomber malade par inactivité. Votre corps va tomber malade parce qu'il faut qu'il bouge. Et l'âme doit agir pour le Seigneur. La Bible dit, ne livrez pas vos membres au péché, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, offrez à Dieu vos membres. Vos membres, comme des instruments de justice. Votre âme, c'est votre jardin secret. Il n'y a que vous qui entrez là-dedans. Il n'y a que vous qui vous y promenez. Le Seigneur veut délivrer votre âme et la mienne tous les jours de toutes ces maladies. Dieu veut nous permettre de dire non à la tentation quand elle se présente à nous. Il veut nous permettre d'arroser notre âme, d'empêcher le dessèchement de notre âme. Il veut qu'on fasse le ménage pour prévenir de la souillure de notre âme. Il veut nous confier des responsabilités. Il veut qu'on prenne des initiatives. Qu'en est-il de votre âme? Soignez sa vie intérieure. Cette âme est quelque chose de merveilleux. C'est vous, c'est moi. Et Dieu dit, entretenez cette âme. Protégez-la. Purifiez-la. Gardez-la comme il faut pour que Dieu puisse se servir de vous et de moi. Prions Dieu. Notre Dieu et Père, merci pour ces instants que tu nous donnes. Merci pour Jésus-Christ qui est mort pour sauver notre âme et nous donner le pardon. Merci pour la puissance que tu as et merci pour la joie que tu nous donnes de découvrir dans ta parole ces conseils pleins de sagesse et qui sont utiles et indispensables pour nous. Par Jésus-Christ, nous prions. Amen.